enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
On va continuer sur l'église locale, donc je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier les différentes phases par lesquelles une église devrait normalement passer. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de ministères qui sont anormaux, nous avons beaucoup d'églises anormales, et en fait, nous devons comprendre pourquoi. Il y a des phases indispensables par lesquelles l'église locale doit passer. Et ces phases, nous les découvrons. Et quand nous les découvrons, nous réalisons de plus en plus que la plupart des églises locales, effectivement, sont restées à cette première phase et n'ont jamais décollé. Alors, je vous ai fait cette comparaison ce matin à un avion. Hein. L'avion qui est là sur la piste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rouler. Et au moment, pour pouvoir décoller, il lui faut un minimum de vitesse. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises locales qui ne font que de traverser la piste, à chaque fois de longer la piste et de revenir en arrière, de réessayer de décoller, elle ne décolle pas, etc. Et ça dure comme ça pendant des années et des années et des années. Et puis 10 ans passent, 15 ans passent, et finalement, le pasteur vit soit complètement, il est épuisé, il ne s'en sort plus, il ne sait plus quoi faire, ou alors, finalement, il est tellement dégoûté qu'il laisse tout tomber. Et il sera enterré avec son appel, malheureusement. Et beaucoup de gens sont comme ça. Je vous le dis, et c'est sûr. Moi, j'ai vécu sur 3 continents, et sur les 3 continents, j'ai vu la même chose dans ce domaine-là. Sur les 3 continents, il y a des églises, hein, sur le continent américain, européen et africain, il y a des églises qui marchent bien, il y a des églises qui marchent mal. Ne pensez pas qu'aux États-Unis, il n'y a que des méga-church. Hein. Ça, c'est faux. Complètement faux. Il y a beaucoup d'églises aux États-Unis qui sont de petites églises qui marchent mal avec des pasteurs déprimés. Amen. Réveillez-vous. Absolument. Et en Afrique, c'est pareil. Il y a beaucoup d'églises qui ont 20, 30, 40 personnes. Faites pas d'illusions. Hein. Et en France, il y a beaucoup d'églises qui ont 20, 30 ou 40 personnes. Et ça, c'est pas normal. Ça doit changer et ça va changer. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est vous qui amènerez un changement. C'est pas... Le changement, on prie souvent, « Oh Seigneur, on voit le réveil. Oh Seigneur, que ça change, etc. » D'abord, changeons. Tu changes ta mentalité, tu changes ton église. Un pasteur qui change sa mentalité grandit, je vous rappelle, c'est un des principes du leadership. Vous voulez que l'église grandisse? Le leader doit grandir. C'est automatique. Donc, pasteur, il faut grandir. Je me le dis à moi-même tous les jours. C'est clair. Nous devons grandir. Plus nous grandissons, plus notre leadership s'élargit, plus l'œuvre de Dieu s'élargira. Ça, c'est clair. C'est un principe inviolable. Absolument inviolable. Jésus était archi super méga, il n'avait aucun problème. Spirituellement, Jésus attiré automatiquement. Il allait dans des endroits, si les gens avaient soif de Dieu, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de gens qui l'entouraient et qui étaient touchés par sa puissance. Et quand il y a même des moments où il ne faisait rien, l'onction de guérison était sur lui tellement forte, ça j'aime trop ces passages, étudier sur l'onction c'est passionnant, et les gens simplement touchaient le Seigneur. Ils touchaient le Seigneur, les démons sortaient et les gens étaient guéris. Voilà, ça c'est l'onction sans rien faire. C'est facile. Vous savez, c'est facile l'onction. Quand l'onction est forte, c'est génial, vous n'avez rien à faire. Déjà, toucher les gens, pouf, la puissance de Dieu se répand, c'est très simple. Par contre, quand il faut plus enseigner, exhorter, reprendre, corriger, ça c'est plus difficile. Mais c'est le boulot du pasteur, entre autres. Le pasteur a tout un travail. Vous avez vu qu'il a beaucoup de casquettes. Hein, il doit passer du mécanicien à l'expert, en passant par l'expert comptable. Et il doit aussi y passer, bien sûr, par le prédicateur. Le pasteur doit tout faire, surtout au début. Alors, nous avons remarqué qu'il y a quand même ces différentes phases. La première, c'est le démarrage. Et le démarrage est vraiment très, très difficile. C'est là où l'avion est le plus lourd. C'est là où il a le plus de mal, où il lui faut le plus d'énergie pour pouvoir s'élever du sol. Et malheureusement, je vous le dis, trop d'avions, entre guillemets, églises, restent au sol, cloués au sol et n'en décollent jamais. Mais une fois qu'on a pris donc ce décollage, après l'euphorie du démarrage où tout le monde était en train de rêver au plus grand et que le réveil fut lourd pour chacun, avec les premiers problèmes qui sont là, les finances qui n'arrivent pas du tout, les choses sur lesquelles ou les gens sur qui on comptait qui fonctionnent, qui finalement fuient ou se rebellent ou etc etc. Finalement, on se réveille et c'est là où la phase de démarrage vraiment devient difficile. Bon, mais on persévère, on mouline dur, le pasteur comprend qu'il doit tout prendre en charge au départ, qu'il doit bosser dur, il travaille dur. Et au bout de quelques années, 2-3 ans, normalement, il doit sortir de cette phase de démarrage. Et là, il y a un noyau qui commence à être constitué avec des nouveaux convertis qui ont commencé un petit peu à maturer. Et le pasteur doit savoir une chose. Tout ce qu'il met dans ses chrétiens, ce sont des valeurs sûres. C'est pour ça que quand quelqu'un ouvre la bouche pour partager la parole de Dieu, c'est pas pour aller raconter n'importe quoi. Malheureusement, il y a des prédicateurs, c'est triste à dire, bon, ils vous racontent des trucs, mais ça nourrit un petit peu votre tête et ça nourrit pas votre cœur, votre esprit. Nous avons cette responsabilité immense de vraiment être sensibles pour toucher le cœur des chrétiens, pour que les chrétiens soient provoqués au changement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Nous devons comprendre qu'en tant que prédicateur, nous avons un message qui doit transformer nos vies et la vie de ceux qui sont autour de nous, l'influence au travers de notre message. Dans une église, il doit y avoir un message fort, un message qui provoque. On n'est pas là pour caresser le dos des chrétiens, des brebis. De temps en temps, il faut leur faire un câlin, oui, d'accord. Mais souvent, il faut les amener là où on doit les amener. Amen. Et ce n'est pas toujours facile. Mais bon, le pasteur doit le comprendre. Et une fois qu'il l'a compris. Vous voyez, en France, vraiment, moi je vois deux. En tout cas, les églises franco-françaises, je vois que souvent, les pasteurs n'arrivent pas à s'affirmer en tant que leader. Et des fois, ils ont peur. Ils sont insécures. On sent que parfois, ils sont un peu réticents à prendre des décisions. Et parce qu'ils se disent, bon, je risque d'avoir 2 ou 3 familles qui partent de l'église. C'est un risque, mais peu importe. Il vaut mieux avoir du bon grain que du grain mélangé avec du grain pourri. Oui, ça c'est clair. Un pasteur ne doit pas marcher dans le compromis dans un domaine. Et c'est vrai que c'est une tentation pour un pasteur, surtout quand l'église n'est pas encore très très bien, je dirais, quand elle n'est pas encore établie ou même qu'elle n'est pas encore dans sa phase de stabilisation. Eh bien, il y a des pasteurs qui ont la trouille. Parce qu'ils disent, oui, si telle personne part, il donne 25% de la dîme de l'église. Ça va être dur. Eh bien, peu importe. Moi, un jour, j'ai eu comme ça du chantage. De gens, comme ça, qui venaient. En fait, ils voulaient acheter le ministère, pratiquement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils voulaient avoir des responsabilités et on me faisait comprendre qu'il y avait une enveloppe qui était prête. Je me souviens d'un certain coup de téléphone que j'ai reçu un jour d'une dame qui était brave. C'était une expatriée ouest-africaine qui venait, qui travaillait aux Nations Unies et qui nous aidait, c'est vrai, brave. Mais rapidement, ses motifs d'aide étaient mauvais. Mauvais motifs. Elle voulait des responsabilités dans le groupe de louanges. Et on a dit non. Et là, le discours a commencé à changer. Un jour, elle m'a gentiment donné un coup de téléphone, alors qu'on avait cruellement besoin de finances pour payer des loyers. Et elle m'a dit, oui, moi, j'avais préparé une enveloppe pour l'église. J'ai dit, mais c'est pas grave. Gardez-la. Il faut être clair. Et des fois, c'est difficile. Vous savez, parce que quand vous avez des besoins importants, c'est dur de dire à ces gens-là, non, je ne suis pas à vendre. Ministère à vendre, non. Ou à louer. Non. Ni ministère à vendre ou à louer, c'est clair. Si vous êtes un pasteur, vous devez obligatoirement marcher dans vos convictions et marcher dans de puissantes convictions. On n'est pas là pour brader le ministère. Le ministère n'est pas n'importe quoi. Le ministère, c'est une ordonnance divine. C'est un don précieux, inestimable que Dieu nous a fait. Et on ne blague pas avec ce genre de truc. Beaucoup de gens jouent à l'église. Moi, je vois beaucoup d'églises qui jouent. Excusez-moi de le dire, je suis franc avec vous. Encore une fois de plus, décidément, vous allez me haïr bientôt. Non, je suis franc avec vous. Il y a beaucoup de gens qui jouent à l'église. On n'est pas là pour jouer à l'église. On est là dans une guerre spirituelle. Et je vous dis souvent, quand on a prêché sur la guerre spirituelle, les gens pensent qu'il faut aller chasser des démons dans les lieux célestes. C'est pas ça, la guerre spirituelle. Ça n'a rien à voir avec ça. La guerre spirituelle, c'est d'aller établir des églises locales qui vont influencer notre société. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pas d'aller se jeter dans des combats spirituels à crier en langue sur le diable. D'abord, le diable, il comprend pas quand tu parles en langue. Alors, tu peux lui crier dessus en langue, ça sert à rien. Tu ne fais que d'utiliser de la salive. C'est tout ce que tu fais. Par contre, la vraie guerre spirituelle, c'est de pouvoir établir l'église de Dieu. Parce que croyez-moi, quand une église est établie, le diable saute. Il dégage. Parce que quand les gens viennent, ils se convertissent, ils se mettent à genoux. Ils sont convaincus de péché. Et il y a un puissant miracle qui se passe dans leur cœur parce qu'ils confessent Jésus-Christ comme sauveur personnel et leur vie est radicalement transformée et après ils amènent d'autres, etc., etc., etc. Et ça, le diable n'aime pas ça. C'est le combat que vous avez amené. C'est ce combat que nous menons. C'est cette guerre spirituelle que nous menons. Rappelez-vous, l'enjeu, c'est l'église locale. L'enjeu, c'est l'église locale. Sachez-le toujours. Je vous ai montré que tous les ministères satellites, hein, c'est-à-dire ceux qui travaillent en dehors des églises locales, doivent ramener les âmes dans l'église locale. S'ils ne le font pas, ils dégageront. L'histoire le montre régulièrement. Et ça, c'est clair. Pourquoi ? Parce que Dieu veut. S'il y a un mouvement de réveil, obligatoirement, ça doit converger vers l'église locale. Ça doit converger vers l'explosion de l'église locale. Ça doit converger vers des nouvelles églises locales. Ça ne doit pas converger simplement par des trucs où on fait des grands rassemblements. Et quand le rassemblement est terminé, chacun reste dans ses belles idées du « moi, je pense que ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'église locale doit avoir un impact à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important de savoir vers quoi nous nous dirigeons quand nous faisons des choses, quand nous essayons de faire des actions particulières, parce que ça doit remplir l'église locale. Toujours, toujours, toujours. Extrêmement important. Alors, dans cette phase donc de stabilisation, on voit que c'est pas facile. Le pasteur a beaucoup de boulot, on a réussi à décoller, ouf, c'est bien. Le pasteur a passé la première étape. Bon, mais il a encore beaucoup de travail. Et en fait, devant cette étape, qu'est-ce qu'il va faire ? La deuxième étape, c'est donc cette stabilisation, comme l'avion qui, hein, et puis d'un seul coup, on va traverser la première couche de nuages, alors ça secoue un peu, attachez vos ceintures, ça bouge, nous sommes dans une position inconfortable, n'est-ce pas ? Effectivement, l'église est dans une position inconfortable à ce moment-là, l'église n'est pas établie, les loyers sont encore difficilement payables, on a vu ça, on doit chercher un local correct, quelque chose de suffisamment grand, quelque chose de bien placé pour que l'église puisse prendre réellement de l'altitude. Et ça, ça demande encore des efforts. Rappelez-vous, la distance parcourue au sol est très faible par rapport au temps. C'est normal, la vitesse est extrêmement faible. On roule d'abord sur la piste et on essaie de décoller. Une fois qu'on a décollé, eh bien, l'avion, quand il va prendre de l'altitude, c'est pareil. La distance qu'il va faire par rapport au temps est assez faible comparativement au moment où il est réellement dans les hauteurs, 10 000 mètres de haut, et là, il vole tranquillement à son allure de croisière, et tout se passe bien, aucune perturbation. Mais pour en arriver là, il y a du boulot. Et dans cette phase de stabilisation, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile aussi à faire, et le pasteur, là, doit grandir énormément. Ça, c'est un moment où il va remettre en question beaucoup de choses. C'est un moment où il devient un leader qui commence lui-même à se remettre en question, à grandir, à se dire « Mais tiens, mais pourquoi je fais ça comme ça ? Ça fait 20 ans que je fais ça comme ça. » Non, il faut que ça change. Et il se remet en question souvent. Se remettre en question, c'est pas se remettre en question sur pourquoi on est là, qu'on soit bien d'accord. Parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a des chrétiens, ils sont tout le temps en train de se remettre en question, en disant « Je suis là, mais finalement, est-ce que je suis dans la bonne église ?» Alors, toutes les semaines, ils se demandent s'ils sont dans la bonne église. Et ça, non, c'est pas ça se remettre en question, d'accord ? Se remettre en question, c'est dire qu'est-ce que je peux faire pour atteindre d'autres sommets ? Toujours le meilleur, toujours aller plus loin, voir plus loin. Je vous rappelle, rester dans une vision, c'est très important. Toujours voir à 10 km, 100 km, 1000 km, 10 000 km si tu veux, fais-le, ça alimentera vraiment, ça te donnera toute l'énergie pour aller de l'avant, pour foncer. Et en fait, il y a une chose aussi que le pasteur doit faire, il doit donc bien sûr établir les départements, et chercher de l'expertise dans chaque département. Très difficile. Le meilleur dans la louange, ok. Le meilleur dans les finances, ok. On a eu ça. Le meilleur dans l'équipe d'accueil ou protocole, ok. On voit ça. Le meilleur dans la salle, faut s'équiper, faut acheter tout un tas de trucs, etc., etc. Et dans cette phase de stabilisation, surtout vers la fin, alors là, on commence, les finances commencent à bien rentrer, on a mis de l'argent de côté. Mais il y a aussi une gestion des priorités. Ça, c'est très important pour le pasteur et pour l'église, les priorités. Je vous ai dit une chose, vous ne pourrez jamais réussir une église locale si vous voulez passer 2 heures le dimanche matin à l'église et si vous voulez passer 1h, 1h30, voire 2 heures un soir de semaine. Ça, je vous dis, c'est l'échec assuré. Je vous le dis à l'avance, église bien endormie, oui, c'est le résultat que vous aurez. Par contre, si vous voulez vraiment vous consacrer, là, vous ferez quelque chose. Et se consacrer, ça demande du temps. Se consacrer montre une gestion des priorités. Regardons dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, nous allons voir ça pour cette phase de stabilisation aussi. Histoire bien connue, Marthe et Marie. Verset 38, il est dit, « Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. » Marthe était absorbé par les nombreux soucis du service. Et voilà, vous avez tout compris où je veux en venir. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Voilà les chrétiens qui ne parlent pas de fruits. Ils s'inquiètent et ils s'agitent pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Voilà deux types de chrétiens. Le chrétien qui est absorbé par le monde et les choses du monde, qui passe sa vie, match de football, match de rugby, film à la télé, c'est pas mal tout ça. Le problème, c'est le reste. Comment est-ce que tu gères tes priorités? Un pasteur doit savoir gérer ses priorités. Je vous dis, dans ce séminaire, je parle à tout le monde. Okay, je parle aux leaders, mais je parle aussi aux chrétiens. Parce que rappelez-vous, nous sommes une famille. Rappelez-vous qu'une église locale ne peut pas être réussie avec seulement un bon leader. Le bon leader a besoin d'implanter quelque chose dans ses chrétiens qui vont l'aider à réaliser la vision. D'accord ? Ça, c'est le principe spirituel. Mais il est clair que les deux doivent marcher ensemble. S'il y en a un qui tire d'un côté et les autres qui tirent de l'autre côté, ça ne marchera jamais. Nous avons des priorités à gérer. Des réunions de prière avec quelques enseignements sur la prière, ça vous fera le plus grand bien. Amen, alléluia. Ça, vous en avez besoin. Vous avez besoin de prier et de passer du temps dans la présence de Dieu, de prier pour les âmes perdues. Pas une petite prière 5 minutes avant le culte. Mais il y a un temps de prière. Il y a un temps où vraiment on passe. On est ensemble, l'Église est conviée et prie et passe du temps et prie et cherche la face de Dieu. Pourquoi pas de temps en temps prendre quelques jours de congé tous ensemble et passer du temps. Jour de congé, les éternels vacanciers, les Français. 35 heures, ah, que le Seigneur nous bénit dans cette nation. Non, c'est pas bon tout ça. Il faut être clair, il faut savoir ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas manger dans le monde toute la journée, toute la semaine, toute l'année et avoir une église qui explose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faudra se consacrer. Donc, il faudra renoncer. On revient encore. Je vous assure, dans nos églises, nous ne prêchons plus le renoncement. Nous ne prêchons plus la sanctification. Et c'est grave. Dans nos églises, nous prêchons la bénédiction. Alors, les gens sont bénis. Mais je vais vous dire, quand ils se cassent la figure dans le péché et quand ils ne se consacrent quasiment plus au Seigneur parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire leur bénédiction, ben ce sont des chrétiens misérables. Misérables. Ils ont commencé à toucher des choses du royaume de Dieu et finalement ils se cassent lamentablement la figure parce que le diable les attend au tournant. Ça c'est très clair. Très très clair. Nous devons nous consacrer, frères et sœurs. Nous devons passer du temps. Des week-ends comme ça en séminaire, vous devriez en avoir du samedi 8h jusqu'au dimanche 20h. Mais oui, je suis désolé. Nous, dans notre église, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Nous avons deux réunions la semaine. Et des fois, des réunions qui durent 3h, ça arrive. En général, c'est 2h, 2h30, disons, la semaine. Et des fois, c'est 3h, des fois, c'est 3h30. Même la semaine, ça arrive. Oui, mais le lendemain, moi, je vais bosser. Ben oui, tu vas bosser. Mais tu seras bien nourri. Il y a quelque chose qui doit se passer. Si ça ne se passe pas, ça ne se passera pas, vous n'aurez rien. Il y aura de temps en temps deux familles qui arrivent, trois familles qui sortent. Trois familles qui arrivent, deux familles qui sortent. Voilà ce que vous aurez. Donc finalement, c'est la stagnation. Et vous aurez très peu de nouveaux convertis. Vous aurez juste des déplacements de chrétiens. Et une église, ça ne marche pas avec des déplacements de chrétiens. Je suis vraiment désolé de le dire. Ça marche avec des nouveaux convertis, on l'a vu. Pour ça, il faut gérer ses priorités. Il faut accepter de dire non à certaines choses charnelles. C'est clair. Même des choses légitimes, je tiens à vous le dire et à vous le répéter. Je ne connais aucune église qui marche dans le succès, qui n'a pas renoncé à pas mal de choses légitimes. C'est obligatoire. Un pasteur doit le faire. Et ce n'est pas une question de dire, oui, le pasteur est saint, il se consacre. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des temps forts dans le Seigneur. Des moments où on se plonge, esprit, âme et corps, ok ? Dans une même vision, pour un même but. On a une activité, par exemple, qu'on prépare, on sent vraiment que le Seigneur nous dirige. On a un orateur, on va faire un concert, on va préparer de l'évangélisation. Ce n'est pas le jour même où on est là, frères et sœurs, nous allons prier. Et on démarre, ça ne marche pas comme ça. Ça, ça porte aucun fruit. Ça porte strictement aucun fruit. Il faut passer du temps à creuser au niveau de l'esprit, à vraiment savoir cibler nos prières, être dirigé par le Saint-Esprit par rapport à nos prières dans ces activités-là. C'est très important. Parce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui ont beaucoup de succès, des choses qui sont tout à fait identiques, qui n'ont absolument aucun succès. Faire la bonne chose au bon endroit, au bon moment. Grande clé. Grande clé. Et à ce moment-là, il commence à y avoir quelque chose de profond qui se produit. Là, l'Église commence à avoir un impact. Et au début, c'est un petit impact. Mais cet impact peut grandir. Mais pour cela, il faut du temps. Il faut vouloir. Si le pasteur vous dit cette semaine, on va passer 2 soirées ensemble dans la prière. Il ne faut pas faire, oh, bof, moi ça ne m'intéresse pas vraiment, les moments de prière. Bon, tu as besoin de te réveiller très sérieusement. Si tu ne te passionnes pas pour Dieu, tu ne verras rien dans ta vie. C'est clair. Si tu ne veux pas passer un temps important avec le Seigneur, avec sa parole, dans sa présence, tu ne verras rien. Et c'est normal. Et je vous le dis et je vous le répète, ici, vous avez plein de trucs pour vous perturber. Exactement comme cette histoire de Marthe et Marie. C'est clair. Ici, Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise au pied du Seigneur. Elle a fait fi des choses légitimes. Et nous devons le faire. Et régulièrement. Et de plus en plus. Si vous avez 35 heures de boulot, ça veut dire que vous avez une heure par jour en plus, non? Amen. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Oh, bien, je rentre plus tôt chez moi, c'est bien, comme ça je suis plutôt à la maison, oui, d'accord, mais passez du temps à vous consacrer à Dieu. Passez du temps à vous consacrer à Dieu. Et quand on est froid, c'est dur de se réchauffer. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Et de temps en temps, le Saint-Esprit nous donne vraiment un gros coup de pouce pour qu'on se réchauffe. Et souvent, on passe à côté. On est là, d'un seul coup, pouf, Dieu vraiment nous visite, et puis on recommence dans les mêmes habitudes quelques temps après. Non. Non. C'est pour ça, je vous dis, le mouvement des fins des années 90 a été gâché par beaucoup d'églises. Parce que les gens n'ont pas voulu se sanctifier. Dieu voulait préparer un immense réveil, et je dois dire que cet immense réveil ne s'est pas produit alors que ça avait été prophétisé. Moi, j'ai beaucoup suivi ce mouvement. Et je dois dire que très souvent, c'est ce qui s'est passé. Et très souvent, les églises qui ont été touchées par la présence de Dieu, dans lesquelles il y avait vraiment des choses qui commençaient à se passer puissamment, ces églises-là, aujourd'hui, elles ont la moitié de leurs membres. Parce qu'elles se sont tournées sur... mon nombril et moi-même. Gravement, dommage. Ils ne se sont pas nettoyés. Ils n'ont pas voulu aller à l'étape suivante, qui devait être l'explosion. Donc cette phase vraiment de stabilisation, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour le pasteur. Parce que le pasteur doit vraiment grandir à ce moment-là. Et l'église doit commencer vraiment, les départements commencent à se voir. On loue un grand local, ou un local déjà qui est beaucoup plus grand, on commence à avoir une vision plus grande, plus élargie. Les gens commencent à venir. On commence à avoir du staff, etc. Ensuite, il y a cette phase d'établissement. Alors, la phase d'établissement, là, vraiment, c'est... on fait le premier bilan. Et comme je le dis, il y en a beaucoup qui font plutôt un premier dépôt de bilan dans leurs églises, malheureusement. Au bout de 10 ans, en général, hein, parce que ça prend du temps. Pour arriver à la phase d'établissement, ça prend du temps. Une dizaine d'années, en moyenne. C'est là où on commence vraiment à voir réellement ce que va être une église. Moi, vous savez, quand quelqu'un me dit « je démarre une église », je dis « ok, gloire à Dieu, c'est bien. On se reverra dans 10 ans. » C'est clair. En 10 ans, qu'est-ce qu'on a accompli? Voilà. Et là, on doit avoir une église qui s'établit au bout de 10 ans. Ça veut dire une église qui déjà a bien grossi. Une église où on commence à produire des leaders qui se sont... converti à l'église. Très important, parce que là, on va parler de choses beaucoup plus profondes ici. Je vous ai dit que dans la phase de stabilisation, l'important, c'était aussi de mettre un centre de formation biblique, très important, au sein de votre église. Ça vous aidera énormément. J'ai fait quelques petites recherches, et vraiment, on voit que les églises qui ont un centre de formation en parallèle dans leur église, souvent, c'est des églises qui vont beaucoup plus loin que les églises qui n'en ont pas. Parce qu'elles ont des ressources humaines importantes qui vont permettre d'avancer dans cette phase de stabilisation. Et après, quand on sera vraiment dans l'établissement, là, les choses seront solidement ancrées. Très important. Vous savez, il y a des églises qui sont indéracinables. C'est l'église établie. Si votre église est déracinable, ça veut dire qu'elle n'est pas établie. Si elle peut voler en éclats, pratiquement du jour au lendemain, disons en quelques mois, et j'en ai vu des églises comme ça, qui ont volé en éclats au bout de quelques mois, qui était devant tout le monde, entre guillemets, qui marchait très bien, d'un coup, plaf, qui se ramassait complètement, qui volait en éclats. Ce n'était pas des églises établies. Il y avait des choses qui se passaient pourtant, intéressantes. Mais le diable, rappelez-vous, en fait vraiment une cible. Il cible les pasteurs à ce moment-là, et si le pasteur se fait dégommer, et il y a toujours un moment dans la phase de stabilisation, avant d'arriver à cette phase d'établissement, le diable essaiera absolument de dégommer la tête. Absolument. Ça, c'est quelque chose qu'il essaiera, parce qu'il sait. Là, on commence à produire des fruits sérieux, c'est des centaines d'âmes qui se convertissent. Attention. Attention. Dans cette phase d'établissement, vraiment, c'est une bonne phase. C'est l'avion qui est arrivé à ses 10 000 mètres d'altitude, qui prend sa vitesse de croisière. Donc là, les choses vont cool. En général, les gros combats spirituels sont terminés, parce que le diable ne peut plus vous dégommer. C'est comme une entreprise. Vous montez une entreprise, au début vous trimez. Bon, il peut y avoir quelques gros contrats qui tombent à droite, à gauche, mais évidemment, il y a des dépenses, et on n'a rien, on loue, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, l'entreprise, elle prospère bien, les contrats continuent, ce sont des clients réguliers, il y a une croissance régulière, il y a un excellent bilan tous les ans, 2, 3, 4, 5, 10 fois, etc., etc., etc. Puis après, elle s'établit complètement. Elle achète ses propres bâtiments, etc., etc. Elle est sur des marchés internationaux, etc., etc. Au bout d'un moment, elle est établie. Qui va dégommer Renault aujourd'hui? Ce sera un peu difficile du jour au lendemain, quand même. Bon, c'est vrai que des fois ça cache certaines choses qu'on ne connaît pas du jour au lendemain, certaines entreprises, mais une entreprise en bonne santé, c'est une entreprise en bonne santé, qui ne peut pas être dégommée du jour au lendemain, normalement. Elle sait prendre les bons virages, si jamais il y a quelques virages à prendre, mais là c'est assez facile. Une église, c'est pareil. Une église, c'est pareil. Une église établie, pour aller la dégommer, moi j'étais dans une église aux États-Unis, c'était une église déjà établie, impossible à démonter. Personne ne pourrait faire ça. Un jour, il y a quelqu'un qui a essayé de faire une division. C'était le responsable du groupe de louanges à l'époque. Il s'est fait jeter. Ils l'ont déménagé, d'ailleurs. Je dis bien, ils l'ont déménagé. En Californie, on était à Tulsa, en Oklahoma, au centre. Ils l'ont aidé. Ils ont tout mis dans un camion. Ils ont dit, maintenant, tu pars, vaut mieux pour toi. Ah oui, c'était clair. Le type voulait prendre 300 personnes de l'église. C'était une grosse église. C'est clair. Vous savez, aux États-Unis, il se passe aussi des sacrés coups d'État. Hein. Je tiens à vous dire, non, mais il y a des choses étonnantes. Hein. Moi, je connais des pasteurs. Ils sont partis en vacances, ils sont revenus. Il y avait quelqu'un d'autre à leur place. Sérieux? Non mais sérieux? Vous savez, le ministère, parfois, c'est précaire pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on doit bien se parer. Il faut être prêt. Nous sommes dans un... Nous frappons un monde invisible. Hein. Monde des ténèbres. Hein. Et c'est arrivé, surtout dans les églises où, vous savez, ça marche par vote. C'est très facile de voter le pasteur dehors. On se met ensemble, bon, allez, hop, prochain vote, il est dehors. Ok, boum. Et le pasteur, il a la trouille. C'est horrible. Ce genre de collégialité, il n'y a rien de pire. C'est pour ça que le pasteur est un gouverneur. Il a intérêt, ça va, à montrer que c'est un gouverneur. Mais c'est clair. Donc, il faut affirmer le leadership, ok? Dans l'église établie, plus personne ne peut contester le pasteur, c'est fini. On sait que c'est lui qui a l'onction, les gens le suivent, les gens sont bénis. Vous savez, si les gens sont bénis, ils vous suivront, il n'y a pas de problème, c'est très simple. Quand les gens sont bénis, vous les avez sortis de galères, pas possible, parce que vous leur avez enseigné la parole de Dieu, parce que vous avez prié pour eux, parce qu'ils étaient en train de mourir, ou alors qu'ils avaient des tas de problèmes, etc., etc. Et ils voient Dieu agir, ils vous disent, mais pasteur, demandez ce que vous voulez, je veux dire, je suis prêt à vous aider. Les gens sont tellement bénis, ils ne veulent plus partir. Même si vous les chassez à coups de pied aux fesses, ils reviendront par la petite porte. Moi, j'en ai comme ça. J'en ai certains qui se sont rebellés, qui sont partis. Ils essayent de revenir par la petite porte. Mais ils se sont tellement rebellés, ils ont été tellement loin. Je leur ai dit, c'est bon, on pardonne. Mais tu fais ton chemin, je fais le mien, pas de problème. Mais ne reviens plus. Il faut être clair. Il faut être clair. Il y a des gens, des fois, qui vont trop loin. Bon, c'est fini. Je vous pardonne, puis c'est terminé. Moi, je ne garde pas de rancœur. Il ne faut jamais garder de rancœur. J'ai un don. Je ne sais pas si c'est un don spirituel, c'est que les jours derrière moi se ferment, je les oublie. Donc ça c'est pratique. Pour pardonner c'est pratique et pour oublier aussi. C'est mieux d'être comme ça, parce que les gens qui ressassent tout le temps des blessures du passé. Oui, pasteur, il y a 10 ans, il y a un autre pasteur, vous savez pas quoi. Il m'a dit un mot, vraiment ça m'a blessé au plus profond de moi-même. 10 ans, non. Allez, laisse tout ça, regarde devant, pousse un peu. Non, mais c'est insupportable des trucs comme ça. Oui, mais vous comprenez pas. Si, je comprends. Le pardon et une vraie repentance, t'en as besoin. Oui, amen. Il y a un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, c'est la repentance. Et pourtant, la repentance, elle est vraiment scripturaire. Vous savez, quand les gens ont des problèmes de relation, et particulièrement envers les pasteurs, qu'est-ce qui se passe? Les gens, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est s'excuser. Parce que, pasteur, vraiment, je me suis énervé ce jour-là. Excuse-moi. Ça, c'est un peu pour sauver sa peau. Il y a des gens qui demandent pardon parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont perdu certains privilèges dans une relation. Et ça, c'est pas scripturaire non plus. Par contre, la vraie repentance amène une vraie restauration. Que quelqu'un dise amen. Et ça, je vous garantis. Dans les relations, c'est comme ça que ça marche. Une vraie repentance amène une restauration dans les relations. Un simple pardon n'amène pas une restauration dans les relations. Faisons bien attention à ça. Et dans l'église, on a besoin parce qu'on se frotte les uns aux autres. Aïe, ça fait mal. C'est comme des jolis cailloux, vous savez, les cailloux avant d'arriver dans la rivière, avant qu'ils soient bien polis, ils se frottent, ils se piquent, ils se font mal, ils se cognent entre eux. Et au bout d'un moment, nous avons les jolis galets polis. Mais avant qu'ils soient polis, ils se sont sérieusement démolis les uns les autres. Amen, c'est la vie de l'église locale. Aucune église n'est passée toujours... Non, obligatoirement, il y a des conflits. Mais quand l'église est établie, normalement, c'est bien le pasteur règne, roi. Le pasteur a bien établi son église. Les gens sont tellement bénis, je vous dis, c'est très difficile. Ils en veulent encore. Plus vous leur en donnez, plus ils en veulent. Et ça, c'est intéressant. Alors là, quand vous avez des gens comme ça, vous les amenez dans les hauteurs. Et rappelez-vous, l'église, c'est une équipe gagnante. L'église, c'est une équipe gagnante. Si le pasteur est sur son île déserte et que les brebis sont à des kilomètres, ça ne marche pas. Par contre, s'il a réussi à faire une équipe et qu'il sait que c'est une équipe gagnante, la gloire sera au Seigneur et le leader, son leadership sera renforcé. Et c'est important. En France, on a besoin de leaders. Je trouve que les pasteurs sont mous comme des chics. C'est grave. C'est une vieille expression, on n'utilise plus ça peut-être aujourd'hui. Excusez-moi, des fois on me dit comment on dit en français, puis il y a des jeunes qui me disent non mais t'es un peu rétro. Hein. J'ai pas trop vécu en France ces dernières années, c'est peut-être pour ça. J'ai plus l'expression, les LOL, on connaissait pas LOL. LOL, on connaissait pas, moi de ma génération, c'est ces jeunes-là qui m'écrivaient ça sur internet, LOL. J'ai dit ça veut dire quoi, LOL. Il faut se réformer parfois. Hein. Et en fait, le pasteur a vraiment besoin de créer cette pleine relation. Quand l'église est établie, franchement, les choses fonctionnent bien. En fait, ce qui se passe, c'est que l'église achète son bâtiment, elle est capable de payer son bâtiment, et elle a encore plein de finances. Parce qu'au début de la phase d'établissement, réellement, l'église termine de payer son bâtiment. Imaginez-vous ! Vous payez 5000 euros un bâtiment pendant des années, et d'un seul coup, tilt, c'est fini à la banque. Ça vous fait 5000 euros par mois à dépenser. Là, vous pouvez faire des choses déjà. Et quand c'est 10 000, c'est encore mieux. Et quand c'est 15 000, ça devient génial. Etc, etc. Donc là, vous avez un potentiel financier. Donc, le leader a bien grandi. L'église est stable. On a tout acheté de temps en temps. Évidemment, le batteur, comme il mange un peu les cymbales, de temps en temps, il faut les remplacer. Bon, ça, c'est pas grave. Bon, on veut s'acheter un mixeur. Combien de pistes, celui-ci, de 4, 6, une douzaine. Bon, c'est trop petit. Allez, un 36 pistes. C'est direct. On réfléchit même plus à ces choses-là. Et puis, en même temps, on a constamment des sous qui arrivent, et on veut aider. On veut commencer à faire des choses plus grandes. Parce que ce qu'on veut, c'est toucher davantage de monde. Et c'est là où on commence à se mettre à faire du média. Parce que le média, il faut en faire. Nous avons un message à communiquer. Tout le monde dit « communiquer ». Amen. Comment est-ce qu'on communique aujourd'hui ? Par la bouche, mais surtout par les médias. Et ça, c'est un problème que nous avons parmi beaucoup de gens. Les gens ne comprennent pas que les médias, nous devrions les envahir. Nous avons le message des messages, frères et sœurs. Mais la communication, ça coûte cher. À mon époque, il y a longtemps, en France, on faisait un peu de publicité sur TF1. Je ne sais plus combien c'était la minute, mais c'était une fortune, 800 000 francs à l'époque. Ça fait combien d'euros ? Je ne sais pas. 120 000, ouais, un truc du genre. Je pense que les tarifs sont à peu près du genre encore. Donc c'est des fortunes, dépenser 120 000 euros pour... une minute de publicité, c'est cher de la seconde. Eh oui, mais d'un autre côté, on n'est jamais sur les médias. Et c'est une catastrophe totale. Il n'y a pas de médias francophones corrects aujourd'hui dans le monde. Il y a quelques malheureux sites internet comme enseignemoi.com et Top Chrétien. C'est de la pub, hein, tu n'en voudras pas. Hein. Et puis à part ça, il y a quelques sites horribles que quand on les regarde, on se dit, ça doit dater des années 80. À peu près, à 20 ans de retard, c'est pas trop grave, on est des chrétiens, après tout. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? La médiocrité, nous connaissons, non? Non, mais c'est lamentable. Des fois, on ouvre des sites, on a peur, on les referme, parce qu'on dit... Franchement. Non, mais il faut marcher avec son temps. Il faudrait peut-être évoluer un peu. On sait que l'homme n'évolue pas, mais nous évoluons. D'accord? Il faut quand même que ça change quelque part. Mais il y a tout un truc à faire. Il y a un potentiel gigantesque. En plus, on a plein de gens qui sont qualifiés dans le corps de Christ pour nous faire des trucs géniaux. Et le problème, c'est qu'on est là en train de se demander ce qu'on va faire. Oui, le monde est perverti. Oui, d'accord. Qui a les médias aujourd'hui? Ben, c'est le monde. Qu'est-ce que vous voyez passer aux médias? Du péché, du péché, du péché, du péché, du péché. Et Christ... Si, ce qu'on veut nous montrer de Christ, le projecteur du monde sur Dieu, c'est lamentable, c'est nul, c'est affreux. Donc, c'est important. Quand une église a un impact important, elle est capable de se payer des choses que les autres ne peuvent pas se payer. C'est comme une société, une grosse, grosse société, le PDG, il roule en hélicoptère. Voilà. Mais avant d'en arriver à rouler en hélicoptère... Eh bien, il va y avoir du temps. Parce que pour qu'une société se paye un hélicoptère, il n'y en a pas beaucoup, même en France. Mais il y en a quand même. Ben voilà, ça fait toute la différence. Donc, l'impact que nous avons. Il y a certains prédicateurs qui sont très critiqués. Les Américains, ils ont des jets personnels. Et tant mieux. Parce que Benny Hinn, s'il n'avait pas de jet personnel, ben je ne sais pas ce qu'il ferait. S'il fallait qu'il prenne les compagnies avec 3 heures de retard ou 4 heures de retard parfois, eh bien, les belles conférences... Ça serait sous le nez, et les gens ne seraient pas bénis. Et alors les gens disent, ah, un jet, un prédicateur, ça coûte combien un jet? 10 millions de dollars. Ben oui, ça coûte 10 millions de dollars, minimum. Ah voilà. Donc il faut bien les avoir. Ben oui, 10 millions, je vois. Oui, oui. Ben oui, 10 millions de dollars, c'est 10 millions de dollars. Et encore, il faut l'entretenir. Hein. C'est pas seulement le payer. Hein. Avec tout le reste. Mais d'un autre côté, si vous voulez répandre l'évangile et être productif, eh bien, il va falloir vous donner les moyens. Et ça se crée, les moyens. Franchement, ça se crée. Mais là, il faut vraiment bien naviguer. Et ça met du temps. Mais je vous garantis, une église qui fonctionne bien financièrement peut aller très, 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 très haut. Si vraiment le pasteur réalise une chose, c'est l'investissement dans le royaume de Dieu. Investir toujours dans le royaume de Dieu. Investir dans le royaume de Dieu. Une église qui investit dans le royaume de Dieu, c'est une église qui ne peut être que bénie.
Amen.
C'est obligatoire. Si votre priorité c'est le royaume, obligatoirement vous êtes béni. Si la priorité c'est les brochettes, votre ventre sera béni, mais c'est tout. Mais c'est clair. Il faut être clair. Regardez votre priorité. Gérer ses priorités, c'est gigantesque. Et des églises établies, il y en a certaines, vous savez, elles vont à une certaine altitude et après elles ne décollent plus. Moi, je connais une église comme ça fait 10 ans. Ils ont 3000 membres, donc ils ont toujours 3000 membres en 10 ans. Ça fait 10 ans, mais ils n'ont quasiment pas fait de chemin. Mais c'est dommage. Le pasteur a loupé plusieurs fois certains mouvements de l'esprit que Dieu voulait amener dans l'église, qu'il a refusé. Donc il est resté avec ses membres, au bout d'un moment d'ailleurs ça avait même un peu baissé, et après ça a redécollé un petit peu, mais avec des gens extrêmement nouveaux, il y a beaucoup de gens qui avaient changé. Et c'est dommage parce qu'on pouvait aller plus loin. Ah, il y a des sommets, vous savez, le ministère c'est pas de la rigolade, hein. Il faut vraiment être sensible. Quand Dieu bouge, hein, si vous bougez pas, 5 ans plus tard vous êtes à la traîne. Et vous loupez quelque chose que Dieu voulait faire dans votre église. Et alors là on se dit, ah si j'avais su, oui mais c'est trop tard. Et après pour rattraper le train, eh ben, c'est difficile. Et parfois, certains ministères sont complètement freinés. Même des gros ministères sont complètement freinés parce qu'ils ont pris, je dirais, la mauvaise direction. Ou ils n'ont pas pris l'autre direction que Dieu voulait leur donner. Et c'est pour ça, c'est vraiment le leader fait beaucoup dans ces cas-là. Il doit vraiment amener. Bon, donc une fois qu'il y a cette phase vraiment d'établissement, c'est clair, les finances coulent à flot, les âmes continuent à se convertir régulièrement, les gens sont bénis, sont enseignés, vous avez des gens qui sont vraiment spirituellement matures, qui encadrent les autres, vous avez tous les nouveaux convertis régulièrement qui sont encadrés par ces gens-là, vous avez des groupes de maison souvent, c'est très pratique, mais c'est pas une technique qui marche à tous les coups. Attention, faut pas marcher avec les techniques, parce que parfois, Ça va amener beaucoup de catastrophes dans les églises. Et donc l'église, la phase d'établissement, ça dure extrêmement longtemps. Et il y a un moment où on passe à une autre phase. C'est la phase d'expansion. La phase d'expansion, ça va être la création de nouvelles œuvres. C'est-à-dire que votre église va devenir une église maman, une église mère. Et c'est là où elle va produire. Normalement, une vraie église doit faire quoi? Elle doit engranger des nouveaux convertis, avec aussi, je vous rappelle, un certain nombre de gens qui se sont joints au départ, ou je dirais le long de la route. Mais elle doit produire des ministères. Une église locale, je répète, doit produire des ministères. Je répète, une église locale doit produire des ministères. Les meilleurs ministères sont produits par les églises locales. Ceux qui ont le plus de difficultés, c'est ceux qui n'ont pas eu de mentor. Ceux qui n'ont pas eu de coach, qui sont là, et Dieu, parce que Dieu ne peut pas faire autrement la majorité des cas, tristement parlant, ils se retrouvent. Vous avez entendu parler de Paula White, je pense. Ben cette femme, cette sœur, maintenant a vraiment un ministère, un très gros ministère, et elle a été énormément aidée par T.D. Jakes. T.D. Jakes l'a prise alors que Paula White était très peu connue, et il a commencé à l'aider, à la mentorer, et de plus en plus, elle a commencé à comprendre un certain nombre de principes sur le leadership, et maintenant, elle a un ministère qui a énormément décollé, Paula White. Parce qu'elle a trouvé un mentor. Mais pas un menteur, un mentor. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les gens ont besoin d'être encadrés. Et franchement, les bons Français du terroir, ils ont du mal à encadrer les autres. Ça, je reconnais qu'il y a un manque de vision de leadership qu'il faut absolument acquérir. Je vous dis, John Maxwell est la référence. Étudiez John Maxwell, ça vous aidera. Moi, j'ai un de ses bouquins, je plonge mes regards régulièrement et j'essaye de laver mon cerveau. Régulièrement, parce qu'il y a des principes de leadership que je ne connaissais absolument pas. Du tout. Et je me suis retrouvé devant des défis devant lesquels je ne savais pas quoi faire. Oui, mais le Saint-Esprit nous enseigne tout, frère. Eh bien, pas toujours. Non, je dois le dire, absolument. Il y a des principes qui nous sont enseignés par d'autres frères et sœurs que Dieu nous amène. Parce que si tu attends d'avoir tout par révélation dans la prière, attention. Les dégâts. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent rien entendre des autres. Ils veulent tout recevoir par révélation. Désolé, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes complémentaires. Et parfois, les gens n'acceptent pas ça. Il y a des pasteurs qui n'acceptent pas d'aller voir chez d'autres pasteurs comment ça se passe. Des pasteurs qui réussissent dans leur ministère. Ils disent, mais quelles sont les clés, etc. C'est vrai que les pasteurs sont très... Vous savez, ils mettent des murs autour d'eux. Et ça montre l'insécurité d'un leader. L'insécurité d'un leader. Attention à cela. Il y a des leaders qui se sentent tellement... Ils n'ont pas... Insécure, je ne sais pas si ça se dit en français, mais peu importe. Ils ne se sentent pas sécurisés du tout, donc ils essayent un petit peu de mettre des murs tout autour de leur église. Ils ne participent jamais à rien et ils ne cherchent jamais chez les autres. On n'est pas là pour imiter, je vous rappelle, ni pour émuler. On est là pour voir, pour observer et se dire... Pourquoi est-ce que je n'ai pas ce niveau-là? Qu'est-ce qui me manque dans mon ministère? Qu'est-ce qui me manque dans ma vie chrétienne? Etc, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se remet en question. Et c'est comme ça qu'on découvre, frères et sœurs. Mais il ne faut pas avoir 80 ans pour commencer à découvrir. Il vaut mieux le faire un peu plus tôt. Ça nous aide. Et c'est là où on peut justement apprendre des autres ministères, découvrir, apprendre des autres églises. Et un leader ne doit pas se sentir insécurisé comme cela. Il y a beaucoup de leaders qui sont insécures. Ils sont là et ils ne se sentent pas fermes. Si vous avez une église qui est réellement établie, vous allez aider les autres à découvrir leurs dons. Vous allez les aider aussi à entrer dans leur appel. Rappelez-vous que cette mise à part, l'onction, vous ne pouvez pas la faire vous-même. Ce n'est pas un pasteur qui peut prier pour un autre pasteur pour que le deuxième devienne un pasteur réellement. Quelqu'un qui a un appel. Ça ne marche pas comme ça. L'onction ne se transmet pas comme ça. D'accord? Parce que sinon, ce serait un titre. Une ordination, ça ne veut rien dire. C'est juste un bout de papier qui vous permet officiellement de célébrer des enterrements et des mariages. C'est tout. Et de faire des baptêmes. Et d'officier en tant que serviteur de Dieu, normalement. Mais s'il n'y a pas d'onction, il n'y a rien qui se passera. Vous le savez, je pense que c'était clair, je vous l'ai largement enseigné. Donc faisons bien attention à cela, ok? Donc ce que Dieu veut, c'est qu'une fois que l'Église est établie, il y ait une foison de ministères. Déjà, vous aurez d'autres ministères, vous avez d'autres pasteurs, parce que quand vous avez une Église de plusieurs milliers de membres, vous ne pouvez pas être pasteur unique, parce que le jour où vous êtes obligé de partir, soit pour vous ressourcer. Alors soit dit en passant, un pasteur a besoin aussi de temps en temps d'aller dans des conférences pour les ministères. Il en a besoin. Le berger a besoin de manger de l'herbe aussi, de temps en temps. Oui, et des bons repas. Absolument. Et là aussi, l'Église doit l'aider régulièrement. Alors, rappelez-vous, Seigneur, garde notre pasteur humble, nous le garderons pauvre. Ok, ne faites jamais ça. Ça, c'est vraiment épouvantable. Non, vous devez aider régulièrement votre pasteur pour qu'il puisse... Et l'Église doit lui payer les voyages qu'il faut, selon, bien sûr, les finances de l'Église. Sinon, il y a des frères et sœurs qui peuvent passer donner un coup de main pour qu'ils puissent partir à des conférences. Ce serait bien 2 fois par an. C'est pas mal. Il en a besoin. Tous les pasteurs ont besoin d'être ressourcés quelque part. Très important. Un pasteur a besoin de recevoir de la part d'autres serviteurs de Dieu qui sont à d'autres niveaux. Ça sera un bénéfice qui sera redéversé dans l'Église. C'est toujours pareil. C'est toujours des vases communicants. L'Église se donne pour son pasteur, le pasteur reçoit plus, qu'est-ce que le pasteur fait? Il redonne plus à l'Église. Et donc l'Église est bénie davantage, donc l'Église avance. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne, c'est toujours un brassement de bénédiction des uns envers les autres, pour pouvoir avancer. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Donc ce pasteur commence à réellement, il a des gens déjà qui sont relativement formés autour de lui, mais il y en a d'autres qui ont des appels. Parce que quand vous avez des églises de plusieurs milliers de membres, eh bien forcément, il y a des gens qui ont des appels pour servir le Seigneur. Et là, il faut vraiment aider les nouveaux ministères. Parce que si vous en avez bavé, il ne faut pas que les autres en bavent non plus. Vous savez, malheureusement, souvent, quand on voit la plupart des nouvelles églises sont dans des douleurs d'archi-enfantement. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, le serviteur de Dieu qui a une vision pour commencer quelque chose, il est obligé de commencer avec 0 plus 0, il y a de la tête à Toto. Et il a du mal. Il a du mal. Et ça tire beaucoup sur l'église. Parce qu'en fait, le serviteur de Dieu doit tout démarrer et il n'a rien comme revenu au départ. Et l'église ne peut rien faire pour lui. Extrêmement difficile. Donc il va vivre des temps difficiles, c'est sûr que c'est formateur, on est tout à fait d'accord. Cela forge notre foi, amen, alléluia. Et ça nous donne des souffrances supplémentaires, amen. Mais parfois on peut quand même éviter certaines choses. Il est important qu'une église mère puisse réellement aider pendant un certain temps, paye le loyer de la nouvelle église qui va être formée, donne un salaire pour ce pasteur qui démarre cette œuvre, etc., etc. Et que ça se fasse comme un enfantement. Ça c'est la volonté de Dieu. Mais la majorité des églises, je dois dire, se font alors que quelqu'un va claquer la porte de l'église et va démarrer quelque chose. Et ça pose beaucoup de problèmes. Ou quelqu'un qui sent que son pasteur ne comprend rien à rien. Et il y en a qui comprennent rien à rien à rien. Ça c'est clair, c'est sûr. Et à ce moment-là, ils n'ont pas du tout la vision d'extension de l'œuvre. De toute façon, l'église n'est même pas établie, etc., etc., etc. Mais une bonne église qui est bien établie, l'objectif, c'est qu'elle puisse envoyer. Et là, d'un seul coup, il y a une phase extraordinaire d'expansion. La plus grande rétribution d'un leader, c'est de former des leaders qui formeront des leaders. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la plus grande rétribution d'un leader. Si vous avez un leader qui veut construire son grand royaume et qui n'a aucune vision pour former des leaders, il se plante. C'est qu'il a mal compris certains principes du leadership. La plus grande rétribution d'un leader, c'est qu'il ait formé des leaders qui eux-mêmes forment d'autres leaders. À ce moment-là, son influence est extrêmement grande. Son potentiel devient quasiment illimité. À partir de l'église mère, vous imaginez, vous formez des pasteurs, ils sont vraiment appelés, des gens qui sont loin, qui démarrent d'autres œuvres, qui vont vraiment dans ce que vous leur avez appris, vous avez implanté tellement de choses en eux, qui sont riches, intérieurement, et qui sont capables de faire beaucoup plus vite que ce que vous avez fait au départ, parce que vous avez eu du mal à établir l'œuvre au départ. Et eux, ils iront beaucoup plus vite que vous. Mais c'est super. C'est une grande rétribution. C'est une grande satisfaction pour un pasteur. Combien de pasteurs en sont arrivés là? Très, 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 très peu, malheureusement. C'est triste à dire. Mais ça, c'est ce que Dieu veut. Ce sont les phases par lesquelles une église devrait passer, conditionnelle. Et au bout d'un moment, ces mêmes pasteurs, au bout de quelques années, commencent à voir, il y a des leaders qui sont formés, et eux-mêmes continuent l'œuvre. Et à ce moment-là, ça s'étend d'une façon extraordinaire. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour l'Église locale. Mais malheureusement, nous voyons que c'est très, très, très rarement le cas. Et là, dans la phase d'expansion, là encore, il faut être très prudent. Parce qu'il y a des gens qui voient un potentiel, des fois, dans des églises mères bien établies. Ils se mettent dans ces églises-là une année ou deux années, et puis ils démarrent parce qu'on commence à parler de croissance, de naissance d'église. Et rappelez-vous, on ne peut pas violer les premières choses que je vous ai expliquées dans la première leçon. Il nous faut des pasteurs loin. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'église dans une région qu'obligatoirement l'église mère doit implanter une église dans cette région-là. Attention, on n'est pas dans les stats. Et malheureusement, il y a un glissement là-dedans. Hein. On n'est pas dans le commercial ici. Hein. On n'est pas en train de vendre ce qu'on a envie de vendre, un produit qui s'appelle l'église locale. Non, parce qu'il y a des gens qui en sont arrivés là. Certaines dénominations en sont arrivées là pour avoir un certain nombre d'églises locales. Et quand on va dans certaines églises qu'ils ont initiées, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de vrai pasteur, il n'y a pas, etc., etc. Et on retombe dans le schéma dans lequel, ce qu'on a vu, ce qu'on a étudié ensemble, de l'église morte, de l'église qui ne prospère pas, de l'église qui n'avance pas, de l'église qui reste complètement enfermée sur elle-même et qui est une église quasiment morte. Alors, cette phase d'expansion, vraiment, c'est quelque chose qui est extraordinaire si c'est bien géré. Mais là encore, le leader doit avoir de l'expertise dans le domaine. Super important, ça demande du temps, et là encore, eh bien, nous ne sommes pas des gens nés appris, nous avons besoin d'apprendre. Et parfois, on fait des erreurs, on amène des gens, il y a des gens qui commencent des œuvres, et finalement, l'Église mère finance ces œuvres-là. Par exemple, pour les missionnaires, je ne peux pas vous dire le problème des missionnaires dans le monde, mais c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Il y a beaucoup de missionnaires qui, finalement, ne produisent quasiment rien. Qui restent dans des pays, qui restent 3 mois, 6 mois, 1 an, qui repartent parce que le Seigneur a dit autre chose. Hein? Le Seigneur a dit autre chose. Et finalement, ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est quasiment nul. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de missionnaires sont comme ça. Et il y a certaines églises qui soutiennent beaucoup de missionnaires, et finalement des missionnaires qui ne portent quasiment aucun fruit. Il y en a, je vous assure, hein, parmi les missionnaires, il y a à boire et à manger. Ah, c'est grave. Hein. Moi, j'ai vu des gens, je me dis, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous feriez mieux de... Enfin, je l'aurais pas dit, mais c'est ce que je pensais. Des fois, on pense très fort et les gens le sentent. Il faut être clair, on n'est pas en train de jouer aux billes. On n'est pas en train de jouer aux billes. Si quelqu'un est appelé, il va devoir persévérer, il va devoir percer. Moi, je vous assure, quand je suis arrivé en Afrique, je pensais que tout allait être facile. Ah, la désillusion totale, mais alors totale. Le jour où j'ai annoncé que je démarrais une église parce que le Seigneur m'avait dit ça, ça a été la guerre. On m'a fait la guerre. Vraiment la guerre, la deuxième guerre. Ah, c'est très clair. C'est très clair parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Parce que d'un seul coup, on vient sur un territoire en tant qu'étranger, en tant que missionnaire. Et normalement, en tant que missionnaire, on devait s'injecter dans un ministère, ce qui était notre cas au début, et aider ce ministère et amener les sous. Et ce n'était pas mon cas. Et je peux vous dire une chose, ça a été extrêmement difficile. Aujourd'hui, les gens nous apprécient bien, on est une église extrêmement reconnue au Burundi, mais ça a mis du temps. Et il y a eu vraiment des moments, à la limite, de la persécution. Il y a des gens qui ont envoyé des lettres contre moi au ministère de l'Intérieur, enfin des histoires épouvantables, je pourrais vous raconter des détails absolument croquants. Mais bon, franchement, c'est bon. Mais en tout cas, ça demande du temps, donc ces nouvelles églises même vont devoir passer par certaines phases aussi. Mais vous pourrez les aider parce que vous êtes le leader qui avait fondé l'église mère, et à ce moment-là, vous êtes capable de leur faire bénéficier de leur expérience. Parce qu'on a besoin, de l'expérience des uns des autres, frères et sœurs. On a besoin de l'expérience des uns et des autres. Pour éviter des erreurs grossières que nous pouvons faire. Et personnellement, j'ai fait plein d'erreurs grossières. Parce que je ne savais pas. Il n'y avait personne qui m'avait mentoré réellement dans une église locale. Moi, j'aurais aimé me convertir et être dans une super église. Hein, où tout est déjà là. Vous avez votre pasteur qui vous dit « Non, ça, c'est pas bien. » Ok, pasteur, bien, je ne le ferai plus. Il faut que tu fasses ça. Si tu as un appel pour le ministère, il faut que tu fasses ça. Et il te forme, il te prépare pendant des années et des années, et tu vois tellement de choses. Moi, quand j'étais dans l'église aux États-Unis, où on était du pasteur Bobby Indian, on était 3 ans là-bas, j'étais volontaire pour ranger des cassettes de Bobby Indian dans la librairie. C'est tout ce que je faisais, une après-midi par semaine. Et j'aidais l'église dans ce domaine-là. C'est tout ce que je faisais. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est d'observer cet homme-là. voir comment c'était établi. Comme ça, dans ma petite tête, ça commençait à tourner. Les programmes commençaient à se mettre en route. Et vraiment, quand j'ai démarré l'église, avec ma femme, on a voulu se calquer quelque part dans certains domaines sur ce qu'on avait vu. Parce qu'il est difficile de mettre en pratique quelque chose que tu n'as pas vu. Alors quand tu viens d'une très bonne église locale qui est établie, déjà tu as une bonne formation, tu n'as pas poussé tordu, c'est déjà ça. Tu n'es pas en train de te chercher pendant 10 ans, tourner en rond en te disant « est-ce qu'il faut faire ça ? Comment faut prier ?» Tu sais déjà comment prier, tu sais déjà comment toucher le ciel, tu connais le message de la foi, tu as grandi dans le Seigneur, tu es sensible au Saint-Esprit, tu as vécu certaines expériences, on t'a donné certaines responsabilités dans lesquelles tu as été fidèle, ou tu as pu grandir dans cette responsabilité-là, et là le Seigneur te donne une promotion. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Tu perds beaucoup moins de temps. Tu dis, ah oui, je me souviens, le pasteur faisait ça, et quand il y a eu tel ou tel type d'ennui, voilà ce qu'il a fait. C'était de la sagesse. Donc, tu as déjà des pistes. Alors, quand tu n'as aucune piste, tu joues au jeu de pistes. Et parfois, ça prend du temps de trouver la bonne piste, de trouver le bon chemin pour arriver à l'objectif. Donc, vous voyez, tout ça, ça nous manque. Bon, donc, cette phase d'expansion, c'est la phase la plus géniale. Alors là, normalement, le leader est déjà mature. Et il amène les autres, il les aide, et il voit les autres venir. Je ne suis pas encore un leader mature, mais on aide actuellement un pasteur qui a démarré une église au Congo, juste à 35 km d'où on est, et je m'amuse beaucoup, je rigole quand il me raconte ses histoires. Je lui dis, bah oui, c'est pas étonnant. Je lui dis, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Tu sais, nous, on a vécu les mêmes choses. Et c'est drôle parce qu'il réalise aussi que, pourtant, il a fait une bonne école biblique aux Seychelles. Et ce pasteur, je crois vraiment dans ce qu'il est en train de faire. Donc, on l'aide. De temps en temps, je vais là-bas. Enfin, j'essaye au maximum de l'encadrer. Et en fait, c'est marrant parce qu'il passe tout à fait par les mêmes problèmes par lesquels nous sommes passés. Mais là, on peut lui donner une réponse. Parce qu'on est passé par là et on sait quoi faire. Et ça l'aide beaucoup. Alors que quand vous êtes seul sur votre île déserte, ben c'est difficile. Il ne faut pas pagayer. Et l'île ne bouge pas beaucoup parce que l'île ne bouge pas en général. Même si vous pagayez beaucoup. Alors, ensuite, la dernière phase, c'est la phase du passage du témoin. C'est-à-dire laisser un héritage derrière vous. Et cette phase-là, c'est vraiment pour les dinosaures de la foi. Des gens qui, pendant des années et des années, ont travaillé, et ont vraiment établi quelque chose de puissant. Moi, je ne veux pas partir de cette terre sans rien laisser derrière moi, spirituellement parlant. Si c'est votre cas, repentez-vous. Amen. Eh oui, s'il faut être clair, on n'est pas ici pour jouer aux billes. Sinon, autant être auprès du Seigneur tout de suite. On sera dans la gloire. C'est mieux d'être dans la gloire plutôt que d'être dans ce corps misérable et mortel. C'est clair. Vaut mieux être dans la gloire. Donc si on est ici, nous sommes en trois dimensions ici, nous avons la capacité, la seule possibilité. Quand tu seras au ciel, tu ne pourras pas dire à ton voisin « Est-ce que tu as reçu Jésus ?» Ben, il te dira « Oui, nous sommes au ciel. » Mais aujourd'hui, tu as la capacité de le faire. C'est-à-dire amener un maximum de gens dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas marcher dans ta destinée ou est-ce qu'au contraire, tu vas rester là, tourner en rond ? C'est ton choix. Tu dois choisir ce que tu veux faire. Moi, je veux pas laisser des petites choses derrière moi. J'ai pris cette décision, je fais tout. D'ailleurs, c'est 5 années, entre 45 et 50, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, amène-moi où tu veux, je veux vraiment voir des choses que je n'ai pas vues jusqu'à présent. » Pour ces 5 années. Les autres années, je prierai autre chose. Mais c'est important. Vous donnez, vous fixez. Et j'ai dit au Seigneur, je consacre mon temps au maximum. Tout ce que je fais, ça converge vers l'œuvre de Dieu. Je passe tout mon temps, tout ce que je peux. Toutes mes capacités, je les mets là-bas. Toutes mes finances, je les mets là-bas. Je fais tout ce que je peux pour faire l'œuvre de Dieu et seulement l'œuvre de Dieu et uniquement l'œuvre de Dieu. Je passe mon temps à ça, week-end inclus. Pourquoi ? Parce que je veux vraiment établir quelque chose de puissant qui va déborder. Et ça prend du temps. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les choses vont se faire toutes seules, que le miracle ça va se passer d'un seul coup. Ça c'est faux, ce sont des idées préconçues. Quand un serviteur de Dieu pense que Dieu va l'amener dans les hauteurs du jour au lendemain, il se fait des illusions d'optique. C'est clair, il se fait des illusions. Il va falloir qu'il travaille pour que Dieu l'amène dans une position où Dieu pourra l'amener dans un autre domaine d'onction. Donc un autre domaine d'influence. Et là, des choses vont s'ouvrir devant lui. Je vous en ai parlé, je vous ai parlé un peu de la télé chrétienne qu'on va faire là-bas. Franchement, c'est quelque chose qui s'ouvre comme ça, actuellement. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Quand on a rencontré Michael il y a 4 ans, on avait un tout petit projet, Michael. Et Michael a eu un grand projet après. Et Enseigne-moi aimé après. Mais on fait peu pour l'instant sur Enseigne-moi par rapport à ce qu'on veut faire. Pour avoir un impact sur les églises, un impact sur la francophonie. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, qui ne sont pas encore faites. Et pourtant, nous avons un potentiel, mais il faut bosser dur jusqu'à temps que les choses se passent. Dans cette phase où vous passez le témoin, où vous laissez un héritage derrière vous, alors là, vous êtes pratiquement dans les 70-80 ans, et il va falloir que quelqu'un prenne la suite. Et ça, c'est quelque chose qui est très touchy, comme on dit en anglais. Parfois, c'est super, et parfois, vous mettez un terme à toutes vos années de travail. C'est pareil pour une entreprise. Quand il y a une belle entreprise, familiale, le père a bien démarré tout ça, et les enfants veulent une chose, tout sauf reprendre l'entreprise. Qui marche super pourtant. Il y a des gens qui sont comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas être dans le business, ils ne se sentent pas, etc. etc. Et là, ça brise le cœur du père. Parce qu'il a bossé toute sa vie, il est sorti d'une condition où il a commencé avec peu de choses, et aujourd'hui, il arrive à une super entreprise, il a passé 40 ans, 50 ans à le faire, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va être amené donc à laisser tout son héritage à quelqu'un. Et ce n'est pas facile à faire. Vous savez qu'il y a des entreprises comme ça qui meurent. Et il y a des églises aussi qui meurent comme ça. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, quand on est un leader, d'avoir des gens qui sont suffisamment forts. Et le Seigneur vous montre la suite. Il y a des successions qui se font superbement. John Austin, je vais vous raconter son histoire, à l'Écoute Church, au Texas. Cet homme, John Austin, moi j'avais été dans son église en 1987 ou 8, quelque chose comme ça, juste pour visiter, parce qu'on avait des amis qui étaient au Texas. Et on avait été invité, c'était la première fois qu'on rentrait dans une grande église, alors on était très impressionnés. Grande salle, 10 000 places. Pas mal. Bah, c'est pas mal. Et dans cette grande salle, 10 000 places, qu'est-ce que John Austin, vraiment super prédicateur, qui a fait énormément pour la mission, je me souviens, ça m'a même marqué, je ne sais pas pourquoi, il était encore en train de faire des offrandes pour payer des projecteurs, à l'époque des projecteurs... avec des gros rouleaux, des grosses bobines là, pour donner donc en Inde, pour que les gens puissent passer le film Jésus, entre autres, je crois, oui c'était Jésus, je crois, le film, en tout cas un film d'évangélisation. Et alors il demandait aux gens, est-ce que quelqu'un peut donner 1 000 $ ici? Il y a quelqu'un qui se levait, ok, moi je peux donner 1 000 $, 500 $, etc., etc., etc. C'est bien, ça c'est pas pervertir le message de la prospérité, ça c'est un bon message, c'est la volonté de la personne. Et en fait, John Austin faisait ça. Et John Austin avait construit cette église immense. Et il était dans un endroit dans un endroit de Houston, au Texas, et c'est un endroit, bon, plutôt pas très riche, en fait, c'était un peu pauvre, c'est un endroit assez populaire. Et il avait la vision de remplir son église, et même à la fin de sa vie, il n'avait jamais réussi à remplir son église. Il avait réussi à avoir jusqu'à 6 000 personnes, alors que d'autres églises avaient explosé. Pourtant, c'était vraiment un très bon prédicateur, il a amené beaucoup de choses. Dans les années 70-80, c'était un homme qui vraiment a été puissamment utilisé par Dieu. Et c'est étonnant, bon, je crois, je ne sais plus si c'est lui qui prêchait, oui, c'est son fils qui prêchait, et il est mort sur l'estrade. John Austin, s'est éteint sur l'estrade, il est mort comme ça, à plus de 80 ans, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fils de John Austin, qui s'appelle Joel Austin, a repris l'église. Et quand il a repris l'église, de 6 000, en quelques années, ils sont passés à 30 000. C'est la plus grosse église aux États-Unis. Et il a un message très simple, mais la succession s'est faite d'une façon extraordinaire. Tout simple. Tout simplement. Il a un message qui est un peu différent de son père, dans le sens où il touche plus d'une façon différente pour son temps, par rapport au public auquel il s'adresse. Voilà. Et cette succession s'est très bien faite. Je ne sais pas exactement l'histoire de Samuel Peter Schmidt, mais c'est une église qui marche très très bien. En France, qui marche très très bien. Ce serait peut-être intéressant que vous vous y intéressiez un peu plus. Regardez les gens qui ont du succès. Vous n'allez pas voir les églises de 20 membres qui sont là depuis 20 ans. Un membre par an. Parce qu'apparemment, ça, c'est pas le succès. Intéressez-vous aux ministères qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Quel message ils ont? Qu'est-ce qu'ils font pour que ça décolle? Et apparemment, entre son papa et lui, ça s'est passé d'une façon superbe. Vous voyez, donc il y a des successions qui se passent très bien. Mais il y a aussi des successions qui se passent très très mal. Très très mal. Où des gens reprennent l'église. Je me souviens un jour d'un... c'est une église au Burundi. Un bon missionnaire américain qui avait un bon message d'évangélisation, franchement. Fils de pasteur. Le papa avait une église, maintenant je crois qu'il est décédé, ou il est vieux, je ne sais plus, en Floride. Et donc, son fils avait un cœur pour la mission, il est parti, il a travaillé au Zaïre pendant longtemps, ex-Zaïre, excusez-moi pour les Congolais. Après il est venu au Burundi, il a commencé une église, en pleine guerre aussi, et il a évangélisé, il s'était mis dans un quartier pauvre, il évangélisait, etc., etc. Bon, il avait réussi à avoir une église d'à peu près 1500 personnes, donc une église qui marchait bien. En pleine guerre, une église qui était plutôt kiswahilifone, donc il avait beaucoup de Congolais aussi, parce que lui-même prêchait en kiswahili. Et en fait, c'était un bon prédicateur, mais ça n'a pas été un bon leader, malheureusement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a... merci d'éteindre vos téléphones portables. Instrument diabolique dans l'église. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... au bout d'un moment, donc, il est parti pour différentes raisons perso, et il a laissé la succession de l'Église à un leadership qui était craquant. Et aujourd'hui, l'Église a 160 personnes, je crois, divisé par 10. Oui, vous ne faites pas d'illusions, frères et sœurs. Une Église, ce n'est pas si simple. Une Église locale, ce n'est pas une petite partie de plaisir, entre guillemets. C'est du travail, c'est vraiment... des lois spirituelles qu'il faut appliquer et ne jamais s'en relâcher. Il y a de très belles églises qui ont fondu. Et certaines, elles ont fondu avec des dettes gigantesques et se sont cassées la figure. Donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec l'église de Christ. Quand il y a succession, il faut vraiment derrière nous qu'il y ait des gens qui soient oints par Dieu et que Dieu montre. Rappelez-vous que ça ne se transmet pas simplement en disant « je te choisis toi ». C'est pour ça que parfois ça se fait de père en fils. Mais parfois ça ne se fait pas de père en fils. Parfois ça se fait par quelqu'un qui est pasteur associé ou assistant, ça dépend, ou pasteur qui s'occupe des jeunes par exemple, etc., etc. Dans les grosses églises, il y a différents pasteurs. Hein, parce que là, quand vous avez une grosse église, vous avez d'autres pasteurs. Et à ce moment-là, on donne la succession à l'autre pasteur parce qu'on sait que le Seigneur nous l'a montré très clairement. Mais il y a parfois des successions qui se passent mal. Parfois, vous avez quelqu'un, il est là, il est pasteur depuis 30-40 ans, et il y a un autre pasteur qui vient, et celui qui doit normalement passer le témoin, il n'arrive pas à lâcher le témoin. Alors ça pose des sacrés conflits. Il y a des églises comme ça qui se cassent la figure aussi. Il faut faire très attention. L'église locale n'est pas une blague. Il faut savoir ce qu'on fait. Chaque fois qu'un leader prend une direction, il doit faire très attention à ce qu'il fait. Que même s'il a beaucoup d'expérience, c'est quelque chose qui est très difficile. Léguer une œuvre de Dieu, on ne peut pas la léguer dans n'importe quelle main. Parce que parfois, il y a des gens qui prennent la suite et qui ne continuent pas du tout dans la vision. Et ça se passe très, très mal. Les gens quittent l'église se divise en deux, trois, etc. D'autres loups qui étaient là en train de veiller... Au bout d'un moment, quand la succession se fait, c'est là où ils sortent les dents. Et ça crée des problèmes. Parce que le leader qui a fondé, qui avait établi, lui, il se retire et des autres commencent à se bagarrer. Ça arrive, les petites histoires d'église. Voilà. Donc on pourrait... Enfin, je pense que je clôture maintenant. J'aurais bien des choses encore à vous dire. Mais simplement, je voulais vous montrer toutes ces phases, ce par quoi vraiment... Si vous travaillez, vous réussirez. Si vous êtes à la bonne place, à faire la bonne chose, au bon moment, la clé est là. La grande clé est là. Mais, je vous ai montré, c'est pas parce qu'on a des dons qu'on réussit. C'est pas parce qu'on est un prédicateur éloquent qu'on peut réussir une église. Ce n'est pas parce qu'on a un don de guérison qu'on va réussir une église obligatoirement. Ce n'est pas parce qu'on est un bon enseignant qu'on va réussir une église. Tout ça, ça va demander toute une expertise tout autour. Vous voyez un peu, je vous ai brossé un peu, je dis bien un peu, parce qu'on n'a pas pu tout voir, bien évidemment. Ça demanderait des dizaines et des dizaines d'heures d'enseignement sur chaque sujet. Mais je dirais, je vous ai brossé un tableau d'à peu près ce qu'est une église locale et comment elle doit évoluer. Donc maintenant, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, ici même, dans cette église, puisque pour l'instant, on parle de l'église ici, d'Oni, théoriquement, déplacée sur Cergy aujourd'hui, avec des invités. Mais c'est à vous que je m'adresse, là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez vu qu'un pasteur ne peut pas réaliser sa vision tout seul. Le pasteur a besoin de votre aide, mais il n'a pas besoin de vos coups. Il a besoin de votre aide, il a besoin que chacun se disponibilise pour l'aider à réaliser la vision en tant qu'équipe. Et soit vous êtes une équipe gagnante, soit vous êtes une équipe perdante. Et ça fait partie de votre choix. C'est vous qui choisissez. C'est très clair. Le pasteur peut partir gagnant, mais vous pouvez le faire perdre. Eh oui. Mais s'il part perdant, vous ne pourrez jamais le faire gagner. Ça, c'est clair aussi. Parce que vous en aurez marre au bout d'un certain temps, vous préférez aller ailleurs. Et ça, c'est dramatique pour beaucoup de gens. Donc c'est un choix d'implication, spirituel, moral, financier. La soumission, on en a parlé. Et je vous ai montré que c'est une grande clé pour la promotion. Pas de soumission, pas de promotion. Pas de soumission, éclatement de l'église. Donc, c'est super important. J'ai partagé ici des vérités. Je vous dis ces vérités, je vous les ai données assez rapidement. Mais ce que je veux, c'est que vous puissiez travailler sur cet enseignement. Je vous conseillerais fortement de réécouter ces enseignements, de prendre des notes et de réfléchir et de méditer. Vous avez un gros sujet à méditer ici. Réussir l'église locale, il y a les clés. Je vous ai montré ces clés, mais il y a plein de choses que vous devez faire par vous-même. Plein de choses que vous devez, dans lesquelles vous devez puiser. Vous savez, la parole de Dieu, on peut vous montrer où se trouve le filon, mais c'est à vous de creuser. C'est comme l'or. Vous pouvez savoir qu'il y a un filon d'or quelque part, mais après, il faut quelqu'un pour le creuser, pour chercher cet or. Et ça prend du temps. Ça demande des efforts. Ça demande de se remettre en question. Ça demande de vouloir changer sa mentalité. Pas de mentalité changée et adaptée à la parole de Dieu, il n'y aura rien qui va se passer. Ça, c'est clair. Et on a besoin de changer. Le monde ici vous tire vers le bas. Le monde vous méprise. Le monde se moque de vous parce que l'église est au niveau 0,0001 et lui, il est à 10 000. Il va falloir monter, il va falloir décoller, il va falloir changer les choses. Ça se passera avec vous, ça ne se passera pas sans vous. Donc c'est le choix que vous allez faire. Le choix de dire, on veut réussir, on va s'impliquer, pasteur, là on se décide vraiment. Ou alors, ouais c'était bien, Olivier nous a fait des enseignements, c'était sympa. C'était pas mal, hein, il a parlé de choses, oui ça va, je me suis repenti de ci, tout ça. D'accord, ok, c'est bien. Amen, alléluia, et on est toujours les mêmes. C'est un défi qui nous est posé. On doit réfléchir sur ce qu'on veut faire. Réussir l'église. Et vous avez un potentiel, franchement. Vous avez un potentiel en tant qu'église locale ici. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous allez libérer ce potentiel et aller dans les premiers sommets ou si vous voulez rester en bas. Mais si dans 10 ans, on revient et qu'on voit une congrégation de quelques dizaines de personnes, pour moi, ce sera un échec total. C'est dur d'être pasteur et d'avoir une église. C'est pas évident. Parce qu'on ne sait pas tout ça quand on s'embarque dans l'aventure. On le découvre petit à petit. Mais quand on le découvre et qu'on sait se servir de ce que Dieu a mis à notre disposition, on peut faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Comme le dit souvent ma femme, avec Dieu, nous ne ferons pas des dégâts. Non, nous ferons des exploits. Amen. Mais ces exploits, ils passent par toi et par moi. Il passe par ta foi et ma foi. Il passe par relever des défis qui sont devant nous. Alors arrêtons de nous trouver des excuses constantes et rentrons dans ce que le Seigneur a pour nous. Amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.